ayant choisi Eupolème, fils de Jean, de la maison d'Akos, et Jason, fils d'Éléazar, Judas les envoya à Rome conclure avec les Romains amitié et alliance, et obtenir d'être délivrés du joug, car ils voyaient que la royauté des Séleucides réduisait Israël en servitude. Extrait du premier livre des Maccabées dans la Bible.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les relations entre le monde juif et le monde romain ont été vives, souvent faites de collaboration et de respect, même mêlées d'incompréhension, et puis par moments, de moments d'une extrême violence. Quand est-ce que le monde juif a pris contact avec la puissance romaine ? Il faut remonter au IIe siècle avant Jésus-Christ pour trouver de véritables contacts entre la République conquérante, qui est alors Rome et qui commence à mettre la main sur le monde méditerranéen, et la population juive de Judée. C'est à l'occasion effectivement de la révolte des Maccabées en 168 avant Jésus-Christ qu'il y eut les premiers contacts. Effectivement, cette année-là, sous la direction d'une grande famille de Jérusalem, les Maccabées, la population juive s'est révoltée contre Antiochos IV, roi de Syrie, de la dynastie des Séleucides, qui avait eu l'intention de placer ses propres images à proximité du temple, ce qui était évidemment quelque chose d'impensable, un véritable blasphème pour le monde juif, et avait été l'étincelle d'une grande révolte. Seulement, se révolter contre les Séleucides supposait d'avoir des appuis extérieurs, et c'est pour cela, et d'ailleurs cela nous est rapporté dans le premier livre des Maccabées que nous trouvons dans la Bible, qu'une mission avait été envoyée à Rome pour essayer d'obtenir l'apport du Sénat, l'appui de Rome, qui est évidemment la grande puissance de l'époque en Méditerranée. La révolte des Maccabées a été finalement une réussite. Les Séleucides ont dû abandonner le territoire de la Judée. Et s'est mise en place alors la dynastie asmonéenne. Seulement, cette dynastie asmonéenne a sombré dans la guerre civile. Et cette guerre civile a obligé Rome à une intervention directe en 63 avant Jésus-Christ. Pompée le Grand, à la suite d'une série de campagnes qui vit entre autres la création de la province de Syrie, entra à Jérusalem et rétablit l'ordre. Il en profita aussi pour commettre un acte aux yeux des Juifs irréparable, puisqu'il est entré dans le Saint des Saints, au milieu du temple, où normalement seul le grand prêtre pouvait entrer le jour du Yom Kippour. Mais la curiosité de l'impérator a été la plus grande. À partir de ce moment-là, Rome a contrôlé la région et contrôlé le monde juif par le biais de monarchies clientes. C'est-à-dire que Rome a installé en Judée des monarques à sa solde qui étaient chargés finalement de collaborer. Le plus connu de ces monarques fut Hérode le Grand. Les évangiles y font allusion, en particulier l'évangile de Matthieu. Et puis il nous est connu également par les écrits de Flavius Joseph et de Nicolas de Damas, qui a été son biographe. Hérode le Grand était à la fois de culture grecque et juive. Et il se fit un devoir, face aux accusations d'être un juif manquant de piété, d'agrandir et d'embellir le temple. Et Jésus de Nazareth a connu le temple que Hérode avait agrandi, qui en avait fait, disons-le, un des plus grands monuments de l'Antiquité. Seulement, après la mort d'Hérode, en 4 avant Jésus-Christ, la situation s'est dégradée en Judée. Son successeur, Archélaos, ne donnait pas satisfaction à Rome. Les impôts entraient moins bien, il y avait de plus en plus de brigandage dans les routes de Judée, et donc en 6 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste décida de transformer la Judée en province de Rome, avec à sa tête un préfet. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le monde juif n'a plus de semi-autonomie, mais est directement administré par un gouverneur romain. Certes, les autorités du temple gardent un pouvoir religieux, un pouvoir social, mais il faut savoir que les préfets romains ont la possibilité de choisir le grand prêtre. Et c'est le cas de Ponce Pilate, qui est le plus connu de ces préfets romains, grâce évidemment aux évangiles, et qui, comme tous ses prédécesseurs, n'hésite pas finalement à choisir les grands prêtres qui sont les plus collaborateurs aux yeux de Rome. Donc on le voit, il y a un rapport direct entre les autorités religieuses et l'autorité romaine. Parce que il faut bien voir que la religion juive est respectée par le pouvoir romain. Il y a une liberté de la religion juive. Certes, sans doute que les autorités romaines comprennent mal ce monothéisme, mais ils respectent en cette religion le côté très ancien, très vénérable, qui en fait quelque chose qui appartiendrait, comme disaient les Romains, au mos maiorum, c'est-à-dire à l'héritage des ancêtres et des anciens. Seulement, la difficulté, c'est que cette religion juive est à ce moment-là traversée par des sentiments de messianisme. Au 1er siècle avant et au 1er siècle après Jésus-Christ, les Juifs sont en attente du Messie. Mais un Messie, bien souvent libérateur. Libérateur qui pourrait les libérer de toute présence étrangère sur la Terre Sainte. Et ce messianisme est évidemment dangereux pour Rome. De plus, il y a un autre danger qui guette l'autorité romaine, c'est sa politique fiscale. En effet, le fisc romain est lourd en Judée. D'ailleurs, l'historien Tacite, dans son livre « Les Histoires », insiste sur le fait que la société juive, outre ces questions de messianisme, ressentait mal la domination romaine à cause des questions fiscales. Et finalement, en 66 après Jésus-Christ, la révolte éclate. Cette révolte va surprendre les Romains. Jérusalem est évacuée et pendant environ 2 à 3 ans, les Romains ont du mal à rétablir l'ordre dans la province. En fait, c'est le général Vespasien, futur empereur, qui va commencer à reprendre la situation en main clairement à partir de 68. Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem, est d'ailleurs assiégée pendant l'été de l'année 70, pendant environ 3 mois. Et en septembre 70, les légions de Titus, fils de Vespasien, entrent dans Jérusalem et vont se livrer à une destruction littéralement terrifiante pour les Juifs, la destruction du temple. Il ne va en rester quasiment pas pierre sur pierre. On s'interroge encore aujourd'hui pour savoir si cette destruction était liée soit à la volonté des soldats de se venger d'une guerre difficile ou si des ordres auraient été donnés par Titus lui-même. En tout cas, plus de temple. La résistance va se poursuivre encore 3 ans au travers de la forteresse de Massada où, après 3 ans de siège, la 10e Légion, commandée par Flavius Silva, réussit à pénétrer dans la forteresse de Massada où vivaient 1 millier de Juifs avec leurs familles. Et les Romains trouvèrent à ce moment-là, nous dit Flavius Joseph, que des centaines de cadavres, les défenseurs de Massada, avaient préféré un suicide collectif. Il y a eu une autre révolte importante, c'est celle de 117. Mais cette révolte a concerné en particulier des Juifs installés à Alexandrie. Car n'oublions jamais que les Juifs ne sont pas qu'en Judée. Il y a des communautés juives à Alexandrie, à Éphèse, à Antioche et jusqu'à Rome. On sait que, Suétone nous le rapporte, en 44 avant Jésus-Christ, les Juifs ont pleuré devant le bûcher funéraire de César. Donc il y a effectivement une diaspora juive tout autour de la Méditerranée orientale et cette diaspora d'Alexandrie s'était donc révoltée en 117. Soulignons d'ailleurs que cette diaspora à Alexandrie est relativement importante puisque on estime à 100-120 000 juifs l'effectif qui vit dans la ville égyptienne. Enfin, dernière révolte, c'est celle de 132-135, celle de Bar Corba sous le règne d'Adrien. La répression fut terrible, la guerre d'ailleurs l'avait été également, et à ce moment-là, Adrien a décidé de détruire Jérusalem pour fonder une colonie romaine sur la ville de Jérusalem, Aelia Capitolina. Et à l'emplacement de ce qu'avait été le temple, lui-même détruit quelques dizaines d'années auparavant, on construisit un temple de Jupiter. Vous voyez que les relations entre le monde juif et le monde romain ont été complexes, faits par moments d'entente, voire de collaboration, et puis de heurts extrêmement forts. Mais il est à souligner une chose. Si le judaïsme a perduré au-delà même de la destruction du temple, au-delà même des échecs répétés des révoltes juives, c'est grâce aux pharisiens et aux synagogues. Les pharisiens, qui sont si mal vus souvent dans les évangiles, ont en fait permis de perpétuer la foi juive, alors que l'aristocratie du temple avait disparu en 70 et qu'un autre groupe juif important, les Esséniens, avait eux-mêmes disparu lors de la révolte de 66-73.